Mandrin. Deuxième partie, chapitre 7. La caisse est vide. Deux jours s'étaient écoulés, pendant lesquels Mandrin, enfermé avec ses compagnons dans le château de Bon Repos, où M. de Voltaire s'était efforcé de leur tenir une aimable compagnie, avait longuement réfléchi à la fugue de Nicole, ainsi qu'à ses conséquences. Grâce aux paroles apaisantes de son hôte, il avait déjà pardonné à sa jeune femme. Somme toute, il ne pouvait que lui reprocher d'avoir agi par excès de tendresse, et il en était ému au point qu'il sentait grandir encore en lui la victorieuse passion qui, tout à coup, avait si tendrement illuminé sa vie. Et il ne cessait de se répéter « Monsieur de Voltaire a raison. Si Nicole revient avec ma grâce, j'en serai quitte pour la refuser. » Mais bientôt, une inquiétude l'envahit. « Que se passera-t-il ensuite ?» se demandait-il. « Nicole, tout d'abord, se soumettra. Mais aura-t-elle la force de supporter l'existence qui l'attend ? Quoi qu'il arrive, je ne connaîtrai plus cette indépendance de cœur et d'esprit, grâce à laquelle j'ai pu, jusqu'à ce jour, poursuivre mon œuvre sans défaillance. » Et s'animant contre lui-même, Mandrin se reprochait. « Pourquoi me suis-je laissé entraîner dans une aventure qui, je m'en rends compte à présent, est beaucoup plus dangereuse que toutes les expéditions au cours desquelles j'ai souvent risqué ma liberté et ma vie ? Je suis en train de m'amoindrir, de me déshonorer, de me perdre. Et mieux vaudrait, pour moi, si cruel cela fût-il, en finir tout de suite avec Nicole, et même refuser de la recevoir quand elle se représentera devant moi. » Mais Mandrin, si grand que fût son désir de s'élever au-dessus de lui-même, se sentait rivé à son amour par de telles chaînes qu'il se demandait s'il aurait la force de les briser. En tout cas, il ne se dissimulait pas que la bataille serait terrible, la plus terrible peut-être qu'il eût jamais livrée. Et ressentant l'instinctif besoin de retremper son courage au milieu de ses compagnons, il s'en fut les rejoindre dans la grande salle du château où ils étaient en train de jouer aux dés et aux cartes. Lorsqu'il apparut, les jeux s'arrêtèrent aussitôt, et tous les regards se tendirent vers lui. Mandrin crut lire sur leurs visages une expression de gêne qui ressemblait singulièrement à un blâme. Il ne voulut point paraître en avoir souci, et s'asseyant à une table autour de laquelle Mi-Carême, Carnaval, le major et le pays avaient commencé une partie de dés, il fit d'un ton dégagé « Je joue 100 écus ». Personne ne lui répondit. Mandrin, fronçant les sourcils, s'exclamait « Eh bien, j'attends !» Mais nul ne semblait décidé à affronter un pareil adversaire. Voltaire, qui venait d'entrer, s'avançait vers lui en disant « 100 écus, je les tiens !» Le capitaine agita le cornet et lança les dés. « 6 et 3 » annonça-t-il l'air satisfait. Et il passa le cornet à Voltaire, qui l'agita à son tour. Les dés claquèrent sur le bois de la table. « Double 6 !» s'écria joyeusement l'écrivain. « Vous m'avez gagné, reconnaissait Mandrin. Et je vais vous payer tout de suite. » Et se tournant vers Mi-Carême, il ordonna « Trésorier, remets immédiatement 100 écus à monsieur de Voltaire. » Mais Mi-Carême ripostait avec un sourire forcé. « Capitaine, la caisse est vide. » Mandrin se dressa en une attitude courroucée. « Comment ? » martela-t-il. « La caisse est vide ? » ?»« Hélas, oui, capitaine. » Le trésorier sortant de sa poche une liasse de papier, les déposa sur la table, et il se préparait à recommencer ses additions, lorsque Mandrin, lui arrachant ses grimoires, les dispersa en l'air en criant « Oh, ça, c'est trop fort ! Ici, on jette donc les écus par les fenêtres ?» Mi-Carême timidement observait « Ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait plus d'argent, capitaine. Tout ce que nous reprenons aux fermiers généraux, vous le donnez aux pauvres. Corbleu ! Se fâchait le révolté. Aurais-tu l'audace de me faire la leçon ? Un léger murmure de désapprobation s'éleva autour du capitaine qui, les narines dilatées et l'œil en feu, s'exclama « Qu'est-ce que j'entends ? Vous oubliez donc que je suis votre chef ?» Alors, s'enhardissant d'autant plus qu'il se savait l'interprète du sentiment unanime de ses camarades, le major, qui avait toujours son franc-parler avec Mandrin, répliquait « N'est-ce pas vous plutôt, capitaine, qui oubliez que nous sommes vos soldats ?»« Tu dis ?»« Je dis que depuis 8 jours, on ne s'occupe plus que d'histoires de femmes. »« Gredin, je vais te faire rentrer tes paroles dans la gorge !» hurla Mandrin en se précipitant vers le major. Mais brusquement, il s'arrêta net. Ses yeux venaient de découvrir le regard désapprobateur de Voltaire. Et, instantanément calmé, il fit, d'une voix grave, « Ce drôle a raison. » Une immense détente se produisit aussitôt parmi tous les contrebandiers. Le capitaine, en reconnaissant aussi crânement ses torts, venait d'un seul coup de reconquérir son prestige compromis. « Camarade, reprit-il, plus que jamais, comptez sur moi. J'avais pris un congé. Il est fini. Ce soir, à 9 heures, tout le monde sous les armes. » Et, s'adressant à Voltaire, il ajouta « Les dettes de jeu, monsieur, se paient dans les 24 heures. Demain, avant l'aube, je vous aurai réglé la mienne. » Sur la frontière de France vivait, dans une fort belle résidence, M. Pincemaille, ancien agent du fisc, présentement usurier pour grandes et petites gens. Ce soir-là, dans une chambre austère, le maître du logis et sa femme, qui passaient pour n'être pas moins âpres au gain que lui, étaient assis devant une table sur laquelle étaient empilés des sacs d'or. Madame Pincemaille prenait une à une les pièces, les examinait à la loupe et les repassait à son mari, qui les déposait dans une petite balance, lorsqu'une servante apparut, l'air terrifié. « Monsieur, madame !» s'exclama-t-elle. « Il y a des bruits étranges dans la maison !» L'usurier, mécontent d'être dérangé dans sa besogne, lui fit signe de se taire. Mais la domestique, toute tremblante, insistait. « Vous n'entendez rien ?»« Ursule, vous êtes folle !» s'écria Pincemaille. « Laissez-nous en paix !» Mais madame Pincemaille, impressionnée par l'accent de sa servante, s'était levée, écoutant. Et toute pâle d'effroi, elle murmurait. On dirait des grincements de chaînes. En effet, reconnaissait son mari, en blêmissant à son tour. Sûr que ce sont des revenants, lamentait Ursule. À peine avait-elle prononcé ces mots qu'un carreau de la fenêtre volait en éclats, faisant fuir la servante qui se mit à pousser des cris d'orfraie. Monsieur et madame Pincemaille se regardèrent, consternés. Ce sont peut-être des voleurs. Bégayait l'usurier, tremblant de peur. Et il se dirigea d'un pas mal assuré vers la porte, afin de la fermer au verrou. Il n'en eut pas le temps. Les deux battants s'écartaient avec fracas, livrant passage à 3 fantômes, enveloppés dans de longs suaires blancs. Tandis que madame Pincemaille s'effondrait, à moitié morte de frayeur, son mari, instinctivement, se plaçait devant la table, afin de protéger son trésor. D'un pas automatique, les 3 spectres s'avançaient vers lui, et le plus grand d'entre eux attaquait d'une voix sépulcrale « Je viens de l'au-delà pour reprendre l'argent des malheureux !» Et arrachant de sa main, aux doigts crochus, le sac qu'instinctivement Pincemaille serrait contre sa poitrine, il fit, d'une voix de plus en plus caverneuse « L'argent des veuves !» Et il le passa au revenant qui se trouvait à sa gauche. S'emparant d'un nouveau sac, il articula « L'argent des vieillards !» et il le remit au spectre qui se trouvait à sa droite. Ensuite, il rafla tous ceux qui se trouvaient sur la table, tout en proférant lugubrement « L'argent des orphelins !» Et les 3 fantômes, s'éloignant à reculons, se dirigèrent vers la porte et disparurent lentement, comme s'ils s'évaporaient dans les airs. Quelques instants après, dans un petit bois épais, aux alentours de la maison des Pincemailles, Mandrin, Mi-Carême et Carnaval, débarrassés de leur suaire et entourés d'une douzaine de contrebandiers, soupesaient les sacs d'or qu'ils venaient de forcer Pincemailles à leur remettre. Et le capitaine, radieux, s'écriait « Camarades, soyez satisfaits! La chasse a été bonne! Je crois que maintenant, le chiffre des recettes l'emportera sur celui des dépenses. Et maintenant, en route pour le château de Bon Repos !» Monsieur de Voltaire avait passé une très mauvaise nuit. Affligé de nombreuses quintes de toux qui se compliquaient d'assez violentes douleurs, il n'avait guère fermé l'œil, et il avait même dû réveiller, non sans peine, ses domestiques pour qu'elles lui préparassent de la tisane et lui missent sous les pieds, glacés, un cruchon rempli d'eau bouillante. Naturellement, il n'avait cessé de pester contre ce maudit château, dont l'insalubrité n'avait fait qu'aggraver son catarrhe et ses rhumatismes. « Décidément, grognait-il, j'ai eu 100 fois raison de faire cadeau à Mandrin de cet abominable repaire, et si grand que soit le plaisir que j'éprouve en la fréquentation de ce cher capitaine, et si vive que soit ma curiosité d'apprendre comment va se terminer l'aventure de sa gentille Nicole, je risquerais fort, en prolongeant mon séjour ici, de contracter une maladie mortelle. » Voilà pourquoi, dès le matin, il ordonnait à ses maraudes serviteurs de préparer ses bagages, et, de très bonne heure, enveloppé d'un manteau de voyage, il descendait dans la grande salle, afin d'y attendre le retour de Mandrin, auquel il tenait à dire adieu avant son départ. Vers 8 heures du matin, le capitaine et ses hommes faisaient une rentrée triomphale, et Mandrin, apercevant les malles et paquets divers dont il était entouré, s'écriait « Comment, monsieur de Voltaire, vous nous quittez déjà ?»«
Il le faut, capitaine. Ma santé fort délicate ne me permet pas, à mon vif regret, d'être plus longtemps des vôtres.
Oh, croyez que je le regrette vivement.
Et moi de même. Malheureusement, je suis très sensible au courant d'air, et cette maison, la vôtre à présent, en est trop abondamment pourvue pour ma chétive personne.
Quand vous reviendrez me voir, ainsi que je l'espère, je vous promets que vous y trouverez tout le bien-être auquel vous avez droit.
Merci, capitaine. En attendant, soyez sûr que j'emporte de notre rencontre un très agréable souvenir.
Et moi, monsieur de Voltaire, soyez persuadé que je n'oublierai pas, d'abord, le royal présent que vous m'avez fait.
Cette vilaine masure.
Et surtout, l'admirable leçon que vous m'avez donnée,
elle me crée envers vous un devoir d'éternelle reconnaissance.
Et, avec un franc sourire, Mandrin ajouta, tout en tendant un sac d'écus à son interlocuteur,
« Je n'oublie pas non plus ma dette, et je suis heureux de pouvoir vous payer, au moment de votre départ, les 100 écus que vous m'avez gagnés au jeu. »
Voltaire, l'œil pétillant de malice, s'empara du sac que lui tendait le capitaine et, le lançant à un groupe de contrebandiers qui se tenaient derrière leur chef, il fit
« Mes amis, voici pour boire à la santé qui m'est la plus chère au monde. »
« À laquelle ?» interrogea Mandrin.
« À la mienne !»